accueille Camille Labousse de l'association Les Orageuses à Dijon. Bienvenue à vous.
Merci.
Et on va commencer par alors une question un peu simple. Selon vous, qu'est-ce que l'écoféminisme, tout simplement?
Oui, alors c'est pas une question si simple. Pour moi, l'écoféminisme ce n'est pas un mouvement ni même un phénomène de mode. C'est un nom générique sous lequel on va placer différentes formes d'expression qui mettent en relation l'écologie et le féminisme. Donc ça, c'est voilà, c'est pas si simple que ça. Et ces formes d'expression peuvent être politiques, militantes, poétiques, artistiques et même spirituelles. Et pour moi, c'est cela qui est intéressant dans l'écoféminisme. Et c'est en même temps ce qui va le rendre difficile à définir. Car en fait, c'est un voilà, l'écoféminisme, on ne peut pas le ranger dans une seule case. Après, d'un point de vue militant, je dirais que l'écoféminisme est la façon de se rendre compte des corrélations entre l'oppression de la nature et l'oppression de la femme perpétuée par le patriarcat. Et puis, plus politiquement parlant, c'est de mettre en lien le saccage de la nature et de l'environnement avec les maltraitances faites aux femmes et de lui donner comme oppresseur le patriarcat et donc, par extension, le capitalisme. Voilà. Donc, c'est pas si simple que ça.
Et quand est-ce que, parce que du coup, on a vu aussi que c'est un concept qui a été introduit par une Française. Et quand est-ce que vous diriez que l'écoféminisme a pris de l'ampleur en France, justement?
Alors, je pense que vous faites occurrence à Françoise Daubonne. Donc, moi, je replace l'écoféminisme, enfin, le début dans les années 70, même si voilà, ça n'a pas pris à cette époque-là, dans les années 70-80, si vous en aviez déjà parlé, je ne sais pas. Ça n'a pas pris parce qu'en France, on était dans un féminisme de première et de seconde vague, très structuraliste, matérialiste, ensuite dans les années 80. Et donc, la pensée de Françoise Daubonne était perçue comme essentialiste, donc vraiment en opposition avec le féminisme français des années 70-80. Donc, ça n'a pas pris, c'est vrai, à cette époque-là. Par contre, aux États-Unis, dans les pays anglo-saxons, ça a vraiment pris une grosse ampleur. Et sinon, en France, pour revenir en France, ben, c'est récent, en fait, ça revient sur le devant de la scène depuis très peu d'années, hein, depuis 5, 6, 7, enfin même pas 5 ans. Les dernières années, on voit des mouvements, des collectifs qui se mettent en place, dont notre association, par exemple. Et voilà, donc je dirais que ça prend de l'ampleur là depuis en fait que le féminisme, depuis qu'il y a cette nouvelle vague de féminisme, on va dire qui est partie du mouvement MeToo. Voilà.
Ok, vous avez évoqué l'association justement. Donc, à titre personnel, pourquoi est-ce que vous avez rejoint l'association Les Orageuses?
Alors en fait, je l'ai rejoint, mais je l'ai aussi créé avec un groupe de personnes. Donc c'était il y a un an et demi, donc c'était fin de l'été 2019. Et en fait, alors on était plus ou moins des connaissances lointaines ou proches, ou des gens qu'on avait perdu de vue, etc. Donc on s'est retrouvés et on est arrivé à un moment où on discutait et on s'est dit, tiens, faudrait qu'on trouve un lieu safe, un lieu dans lequel on pourrait échanger, parler de problématiques féministes et LGBTQI+. Et en fait, on avait fait des recherches pour intégrer éventuellement une association qui existait sur Dijon. Et puis, on n'a pas trouvé. Alors, il y avait des associations féministes, mais qui ne répondaient pas forcément à nos attentes de personnes. Donc, on s'est dit, tiens, on va créer l'association. Et il y a une demande hein, derrière ça. Il y a quand même des gens qui sont curieux ou qui sont en demande. Donc, c'est pas anodin ce qu'on a fait.
Et du coup, qu'est-ce que vous faites, vous, comme action?
Alors, l'association, là, elle est portée sur deux axes principaux. Donc, un axe culturel. Et donc là, depuis le début de l'année scolaire, donc on fonctionne par année scolaire, donc depuis septembre 2020, on a monté un club féministe qu'on a appelé sur les pavés. Et donc là, malheureusement, avec la crise sanitaire, on ne le propose pas en physique, on aimerait vraiment. Mais on propose des lives. Donc la semaine dernière, on a fait un live sur l'écoféminisme, justement. Et celui d'avant, en décembre ou novembre, je ne sais plus, il portait sur le fantasme. Donc c'est vraiment des sujets divers et variés. Donc ça porte sur la culture. Livres, films, artistiques, enfin voilà, un vrai échange. Après, justement, avec cet axe culturel, alors il y a un projet là qui va naître début du mois de mars, donc c'est tout neuf, on n'en a pas encore vraiment parlé autour de nous. C'est la construction d'une bibliothèque mobile pour aller apporter cette culture féministe dans tous les quartiers de Dijon et puis les communes limitrophes, vraiment dans un souci de créer du lien social. Donc après, le livre va peut-être être aussi prétexte à aller dans les quartiers pour discuter, pour parler des questions féminines, féministes aussi. On lance un financement participatif à partir du début du mois de mars. Donc voilà, vous n'hésitez pas à regarder ce que nous faisons sur les réseaux sociaux. On va vous mettre plein de petites choses pour vous appâter. Et sinon, on a un deuxième axe sur lequel on travaille, c'est l'axe social. Donc on avait commencé à mettre en place cet axe après le premier 2020 du coup. Donc on travaillait avec des habitantes d'un village de stabilisation qui est sur Dijon, de permettre de valoriser en fait leur savoir-faire, de pouvoir nourrir peut-être à petite échelle, mais pouvoir nourrir un peu leur petite communauté. Et puis et également échanger sur des questions assez sensibles sur le corps, sur les relations, sur la sexualité, auprès des enfants, des adolescentes et des femmes de ce village. Donc ça, pareil, on aimerait bien y retourner, mais c'est très compliqué. Et on a un projet, donc sur le long terme, de créer un plus grand jardin solidaire où on accueillerait des personnes isolées dans un souci de réinsertion sociale. Donc en leur proposant de venir jardiner, de venir échanger du jardin et dans un cadre surtout serein où les gens se sentent en sécurité. C'est ça aussi qui est important, c'est d'offrir un lieu où la parole peut être libre et où les gens puissent se sentir en sécurité. Voilà pour pour nos actions actuelles. Et après, oui, donc la semaine dernière, samedi dernier, on a aussi fait une collecte de protection menstruelle, par exemple. On collabore avec pas mal d'associations locales aussi. Donc. Et puis cet été, pareil, on va sûrement être au Vive Festival, donc à Dijon. Et là, on aura un stand de prévention, donc avec d'autres associations de prévention. Et on aura certainement aussi un petit gang qui viendra raccompagner les personnes vers le parking ou qui aidera les personnes qui ont besoin d'une aide. Donc ça, c'est pour le futur proche.
Et vous en parliez tout à l'heure aussi un peu sur les réseaux sociaux. Est-ce que selon vous, du coup, les réseaux sociaux sont aujourd'hui le meilleur moyen pour créer une communauté autour d'un mouvement social comme l'écoféminisme ?
Alors les réseaux sociaux, oui, c'est un très bon moyen. Alors on l'a vu, hein, comme je le disais tout à l'heure, avec des mouvements comme MeToo, c'est vrai que ça a permis de recréer une vague féministe. Après, ce ne sont pas les seuls moyens aussi, on va dire, d'action pour créer une communauté. C'est un canal très intéressant, mais il faut multiplier les moyens pour toucher le plus grand nombre de personnes, puisqu'il y a des personnes aussi qui ne sont pas familiarisées aux réseaux sociaux. De l'association, c'est très important en fait d'être à la fois sur les réseaux sociaux, donc on est sur Facebook, Instagram pour le moment, mais aussi d'être présent physiquement durant des événements, soit en étant invité ou par exemple dans des manifestations aussi. Je pense que c'est une combinaison pour, euh, voilà, pour créer un mouvement. Et toutes les actions sont importantes, il n'y a pas de petites actions. Après, les réseaux sociaux, c'est vrai que c'est très intéressant dans le sens où ça permet à certaines personnes de franchir plus facilement le pas et de pouvoir s'exprimer, de s'éduquer, de se cultiver, de parler de ses expériences. Et peut-être que ces personnes n'auraient pas forcément pu se rendre dans un groupe de parole. Par exemple, nous, au départ, on ne l'a pas trouvé, en fait, ce lieu physique. Donc, c'est vrai qu'au travers des réseaux sociaux, c'est plus simple pour les personnes. Et voilà, donc ça, vraiment, c'est un mouvement qui permet, les réseaux sociaux, ça permet vraiment de libérer la parole, hein, MeToo, le MeToo inceste, enfin, ou ce qui se passe avec Sciences Po actuellement. Donc, c'est une puissance vraiment inouïe. Et puis, ça dépasse aussi le cadre local. Donc, c'est national, voire international. Donc, ça, c'est ça qui est hyper intéressant et important dans les réseaux sociaux.
Tout petit aparté, désolée. Je vous venais de passer la barre symbolique des 1000 abonnés parce que je viens de m'abonner et du coup, bravo.
Ah bah, super, j'étais pas au courant. Merci.
Voilà, j'ai pas pu m'empêcher de vous le dire, mais quand j'ai vu 999, je me suis dit, ah non, hop, voilà.
Ah bah c'est vous la millième, ah bah super. Bon.
Voilà, c'est tout, désolée.
Merci, Elise. Du coup, j'ai perdu ma question. Oui. Donc, vous avez parlé des réseaux sociaux, mais aussi, mais pas que. Enfin, il y a plusieurs canaux. Donc, quelle stratégie est-ce que vous pensez qu'il faudrait adopter afin de faire comprendre aux gens l'urgence climatique et ses conséquences?
Je pense qu'il faut être présent tout le temps et partout. C'est très important. Et que voilà, qu'il ne faut pas se décourager, qu'il faut mener des actions à petite échelle et ne pas en avoir honte. Et voilà, je dirais que les stratégies à adopter, c'est voilà, de parler autour de soi, de recommander autour de soi et aussi, plus militant en parlant, d'invectiver. Voilà, les pouvoirs publics. Maintenant, on peut faire justement avec les réseaux sociaux des hashtags, on peut interpeller les politiques et je pense que ça peut être une très bonne stratégie pour voilà, montrer et créer quelque chose et montrer les urgences climatiques.
Ok, donc est-ce qu'il y a eu des actions de mouvements comme ça, qui, enfin passés ou futurs, qui ont eu selon vous un réel impact sur les politiques et sur la façon dont la société fonctionne?
Oui, alors je pense que ce sont toutes les actions qui sont venues de la rue, qui viennent des gens. Alors si on reprend l'écoféminisme, ce sont toutes les luttes des personnes qui ont voulu montrer les conséquences néfastes de tel ou tel projet. Par exemple, le Women's Pentagon Action dans les années 80, ou le mouvement SHPCO au Népal, ou la Green Belt Movement au Kenya qui a été portée par Wangari Maathai. Et toutes les actions, par exemple, menées en Amérique du Sud, il y a une vraie communauté écoféministe en Amérique du Sud qui pointe justement l'urgence et les dégâts que peuvent porter certains projets. Donc, je pense qu'elles ont vraiment un gros impact sur les politiques. Après, peut-être dans le cadre plus franco-français, on va dire, le travail des lanceurs d'alerte. Il y en a pas mal des lanceurs d'alerte, hein, et ils font un travail incroyable. Et il faut à tout prix que ces personnes puissent continuer à alerter. Et après, les actions de désobéissance civile, donc portées par des associations. Comme Extinction Rebellion, par exemple, elles sont intéressantes car voilà, on voit qu'il a l'urgence. Alors c'est pas violent, hein, mais l'urgence, elle devient une action, quoi, un cri du cœur, et c'est impactant aussi. Enfin, c'est visuellement impactant, et ça montre aussi que ben, y a toute une communauté aussi qui est prête à agir, à invectiver, à montrer tout ce qui ne va pas. Voilà.
Ok, et on a juste encore quelques questions sur votre association. Du coup, déjà combien de membres est-ce qu'il y a dans cette association et comment s'engager simplement au sein de l'association? Est-ce que c'est ouvert à tous?
Alors, en membres actifs, on est une dizaine. En adhérents qui ont adhéré, on est une cinquantaine de personnes. Après, on a d'autres personnes qui nous suivent sur les réseaux sociaux qui ne sont pas forcément adhérents. Et donc, sur les réseaux sociaux, nous sommes à 1000 abonnés. Voilà. Alors, pour nous rejoindre, voilà, l'association est ouverte à tout le monde. Il n'y a pas de restrictions. Voilà, on accepte vraiment tout le monde. Tout le monde peut s'engager, adhérer à l'association. Le prix de l'adhésion est modique. On l'a fait exprès pour qu'un maximum de personnes puissent en fait, venir et participer. Donc, elle est à 5 euros. Donc, l'association, elle est ouverte aux femmes, aux LGBTQI+, aux hommes cis. Après, certains événements peuvent être en mixité choisie. Donc là, on l'explique quand on choisit de faire des événements physiques en mixité choisie. On explique la raison pour laquelle on fait ce choix-là. Après, là, c'est très difficile en ce moment de pouvoir se réunir physiquement. Donc, on ne le fait pas. On essayera dès que possible de le faire avec toutes les précautions nécessaires, bien entendu, pour rencontrer les gens intéressés par notre association. Donc, on l'a déjà fait, ça marche bien. C'est un super moment pour partager. Voilà, les gens sont très contents. On est très contentes aussi. Après, il n'y a pas de petits engagements. On peut venir pour un événement, on peut venir pour un live et ne plus revenir du tout. On peut très bien vouloir s'investir dans l'organisation de projet. Voilà, donc voilà, on juge pas, tout le monde est libre de participer à son échelle comme il veut. Et nos événements sont quasiment toujours gratuits et comme je le disais, l'adhésion vraiment modique. Voilà, et donc après, vous pouvez toujours nous contacter sur les réseaux sociaux, donc via notre adresse mail ou via notre page Facebook ou notre page Instagram, donc les orageuses, au pluriel.
Ok, alors merci beaucoup. C'était Camille Labousse des orageuses à Dijon.
Merci.